c'est trop, Doc. Me retrouver ici, j'ai l'impression que c'était hier.
Mais c'était hier, tu étais ici hier. On a du mal à s'y faire, hein.
Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur.
Ou un jour passé.
Bonjour tout le monde, je me présente Stéphane Dupont et j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à mon tout nouveau podcast que j'ai nommé le podcast à voyager dans le temps. Avant toute chose, je vous parle un peu de moi. En fait, je suis natif de Montréal, j'ai grandi en Gaspésie et là actuellement, je demeure dans la belle ville de Québec. Quand j'ai resté en Gaspésie, j'ai eu le plaisir de travailler pendant à peu près une dizaine d'années dans une station de radio et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à cette époque-là, de sorte qu'aujourd'hui, maintenant que je suis à Québec et que j'ai complètement lâché le domaine, j'étais un peu nostalgique, je m'ennuyais de cette belle expérience-là que j'ai vécue, ce qui m'a donné le goût justement de créer ce petit podcast. Et qu'est-ce qu'on va y trouver? Dans ce podcast-là, c'est des capsules historiques qu'on va se concentrer sur une année en particulier. On va la décortiquer au niveau de l'actualité, au niveau du sport, au niveau du cinéma. On va aussi parler musique parce que je suis un gars qui adore la musique. Et cette première capsule aujourd'hui est consacrée à l'année 1972. Pourquoi j'ai choisi cette année-là? C'est pas compliqué, c'est tout simplement parce que je suis venu moi-même au monde en 1972. Ceci étant dit, on part tout de suite côté musical avec la formation de Staple Singers et la pièce « I'll Take You There ».
Lying to the race.
comme promis, on vient d'entendre les Staple Singers et la pièce I'll Take You There. Une pièce qui, sûrement, dès les premières notes, vous a rappelé quelque chose. En tout cas, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Personnellement, de mon côté, c'est le genre de pièce que, lorsque j'écoute, me met un petit sourire dans la face. Imagine une journée où il fait pas trop beau, hein, il mouille dehors, c'est grisonnant pas mal, ou une journée où il n'y a rien qui va pour vous autres. On écoute ça, puis je pense que ça nous remet de bonne humeur pour le reste de la journée. En tout cas, personnellement, moi, c'est l'effet que ça me donne. Ceci étant dit, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. On va parler de nos petites éphémérides de l'année 1972. Et on commence avec le 1er janvier 72, où l'âge de la majorité passe de 21 ans à 18 ans. En vertu d'un nouveau projet de loi adopté à l'Assemblée nationale, c'est la loi numéro 66, et ça a été adopté à l'unanimité. Par contre, il y a un petit bémol. Il y a un bémol, si on veut être directeur de compagnie, ou si on veut assumer les fonctions de jury lors d'un procès, on devra toujours avoir 21 ans. Le 2 janvier, donc le lendemain, c'est l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Sapporo au Japon. Il y a en tout 35 nations qui envoient des athlètes là, à Sapporo, soit de deux fois moins par contre qu'à Grenoble en 1968. Le nombre d'athlètes est de 1006 contre 1158 quatre ans plus tôt. On dit que cette baisse, ça s'explique par le coût élevé du voyage vers le Japon là, pour les athlètes européens et américains. Il y a aussi les Philippines, le Taipei chinois qui participent à leur premier jeu d'hiver et il y a la Corée du Nord qui prend part à cette compétition pour la deuxième fois après 1964. On note aussi que la Belgique fait son retour aux Olympiques après l'avoir manqué en 1968. Il y a 6 pays qui étaient présents à Grenoble qui ne participent pas à Sapporo, entre autres le Chili, le Danemark, l'Inde, l'Islande, le Maroc et la Turquie. Les Jeux olympiques d'hiver de 72 se sont déroulés du jeudi 3 janvier au 14 février. C'était donc sur 11 jours, il y avait 2 week-ends. 35 épreuves étaient au programme comme en 1968. On parle aussi du 9 janvier où au Québec, il y a des agents fédéraux qui ont volé la liste des membres du Parti québécois. Ça s'est passé dans les locaux des Messageries dynamiques à Montréal, une compagnie qui existe encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'opération AM et cette opération-là sera dévoilée quelques années plus tard là, pendant une enquête publique sur les événements d'octobre 1970. D'ailleurs, il y a plusieurs commissions d'enquête fédérales et québécoises qui ont démontré que la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, a infiltré et espionné le mouvement souverainiste et le Parti québécois au lendemain des événements d'octobre 1970. Ce vol de la liste des membres est l'une des nombreuses opérations menées par la GRC durant les années 70. Il y a d'ailleurs le gouvernement de René Lévesque qui a mandaté un certain Jean Cable de faire toute la lumière sur ces opérations secrètes-là qui visaient à déstabiliser le mouvement souverainiste et un parti démocratique. Son rapport fut rendu public au cours de l'hiver 1981. Hey, c'est maintenant le temps de poursuivre avec encore une petite pièce musicale. On va écouter Bill Withers et la pièce « Lean on me ». Somebody to lean on, please.
need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother.
Il y a plusieurs artistes qui ont eu l'occasion de faire une reprise de cette pièce-là de Bill Withers, la pièce « Lean on me ». On a eu l'occasion également de l'entendre dans le film « L'école du bonheur » qui est sorti le 3 mars 1989. Ça a été réalisé par John G. Avildsen et sa mère vedette Morgan Freeman. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Si ce n'est pas le cas, mais je vous invite à aller dans les clubs vidéo où on a encore des vieux films. Et voyez ce film-là, c'est un excellent film. Grosso modo, là, c'est l'histoire d'une école où c'est l'anarchie totale, là. Il y a de la drogue, l'intimidation, il y a beaucoup de graffitis sur les murs. Les autorités de l'école ont complètement perdu le contrôle et font appel plutôt à un homme pour diriger l'école comme directeur, qui est justement Morgan Freeman. Et il réussit à mettre l'école à sa main puis en faire une école vraiment complètement modèle. Et puis, en tout cas, je vous invite à aller voir ça. Moi, j'ai adoré ce film-là. Je suis sûr que vous allez aimer ça. C'est un beau film d'espoir. Ceci étant dit, on poursuit avec nos éphémérides et on va parler du 9 février 1972, une date importante pour la ville de Québec, où, elle a obtenu sa franchise dans la nouvelle Association mondiale de hockey. C'est un nouveau circuit là, qui est principalement visait à faire la compétition à la Ligue nationale de hockey. Ça voit le jour le 13 septembre 1971. L'AMH comptait 12 formations dans cette ligue-là. Puis les propriétaires étaient pas mal affamés. Ils ont réussi à aller recruter des gros noms qui étaient déjà établis dans la Ligue nationale de hockey. On parle de, tenez-vous bien, Gordie Howe, Frank Mavlin, Bobby Hall, Phil Exposito. Donc, c'est tous des noms qui ont connu du succès dans la Ligue nationale. Il y avait deux divisions, la division S et la division Ouest. Nos Nordiques de Québec étaient à ce moment-là dans la division Est avec les Whalers de la Nouvelle-Angleterre, les Crusaders de Cleveland, les Blazers de Philadelphie, il y avait également le Nationals d'Ottawa, les Raiders de New York. Le premier entraîneur de cette équipe-là, ben oui, vous le savez, vous le connaissez, c'est Maurice Richard. On a fait l'annonce qu'il était embauché comme entraîneur le 27 juillet. Et le premier match des Nordiques de Québec se déroule le 11 octobre. Maintenant, on parle du 19 mars, toujours dans le domaine du sport, où l'architecte français Roger Talibert obtient le contrôle pour concevoir les plans du Stade olympique de Montréal. Le défi était de, bien sûr, créer un endroit pour accueillir les Jeux olympiques, mais aussi les Expos de Montréal de la Ligue nationale de baseball. La maquette a été dévoilée officiellement le 6 avril et le coût de construction à cette époque-là, tenez-vous bien, est évalué à 310 millions de dollars. Si on compare avec l'amphithéâtre de Québec qui a coûté 500 millions, c'était déjà un bon montant là, en 1972 pour un stade olympique. Encore aujourd'hui, c'est le symbole même des Jeux olympiques qui sont déroulés en sol canadien, et c'était les premiers Jeux olympiques à se dérouler au Canada. 40 ans après la cérémonie d'ouverture des Jeux de Montréal, soit le 17 juillet 1976, le stade olympique demeure encore l'héritage le plus dominant légué par les Jeux de la 21e Olympiade. Selon le rapport annuel de la Régie des installations olympiques, la RIO, la toile du stade est déchirée à 6 776 endroits. Ses coûts d'entretien ont atteint 450 000 $ et puis l'année précédente, ça s'était élevé à 1 400 000. Donc, on voit que c'est quand même assez dispendieux d'entretenir le stade olympique. Aujourd'hui, il n'y a aucune activité qui peut se dérouler dans le stade là, s'il y a plus de 3 cm de neige. Donc, on peut dire que l'endroit, là, c'est pratiquement inutilisable. Le 17 juin, c'est le déclenchement de l'affaire du Watergate aux États-Unis. C'est l'arrestation d'un poseur de micro au siège du Parti démocratique américain. Le Washington Post alerte l'opinion publique américaine sur les agissements de la Maison-Blanche. On dit que le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique qui aboutit en 1974 à la démission de Richard Nixon. Les investigations menées par des journalistes puis une longue enquête du Sénat américain vont finir par lever le voile sur des pratiques illégales de grande ampleur au sein même de l'administration présidentielle. Et on continue. Côté musical, pourquoi pas, on vient de parler des États-Unis, pourquoi pas une formation qui s'appelle America, et on écoute la pièce A Horse with No Name.
On the first part of the journey, I was looking at all the There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of There ain't no one for to give you no pain.
I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Voilà, comme promis, on vient de s'offrir une autre pièce musicale, la formation America et la pièce A Horse with No Name. Vous savez, en 1972, il y a eu beaucoup de pièces anglophones qui ont connu du succès, mais il y a aussi des pièces francophones et je vous promets qu'au cours de l'émission, on aura l'occasion d'en entendre quelques-unes. Un petit peu plus tôt au cours du podcast, je vous ai parlé des Jeux olympiques de Sapporo au Japon. Ben, fait plutôt étrange, en 1972, il y a aussi eu les Jeux olympiques d'été qui se sont déroulés à Munich. Ça s'est passé du 26 août au 11 septembre. Il y avait en tout 21 sports qui étaient présentés. La Russie est sortie gagnant des Jeux olympiques avec 50 médailles d'or, 27 d'argent et 22 de bronze. Au deuxième rang, on avait les États-Unis avec 33 médailles d'or, 31 d'argent et 30 de bronze. Et en troisième position, on avait la République démocratique d'Allemagne avec 20 médailles d'or, 23 d'argent et 23 de bronze. Il s'est passé aussi un événement tragique en 1972, au mois de janvier, c'était l'incendie du navire Queen Elizabeth. Ça a duré 6 jours, l'incendie, et on a prouvé que l'incendie était criminel. Le bateau a tout simplement été abandonné dans la baie de Hong Kong, et ce navire-là avait été construit entre les années 1936 et 1940. Au Québec, au mois de juillet, le 19 juillet, on annonçait que le salaire minimum sera porté de 1,50 $ à 2 $ de l'heure, mais en plusieurs étapes. C'était réparti comme ça, soit le 1er août à 1,60 $, le 1er novembre à 1,65 $, le 1er mai 73 à 1,70 $, le 1er novembre 73 à 1,80 $, le 1er mai 74 à 1,90 $, et finalement le 1er novembre 74 à 2 $. Donc l'augmentation du salaire minimum s'est faite sur quand même une longue période. Le 28 septembre, c'était la série du siècle au hockey qui opposait le Canada à l'URSS. On assiste au 8e match. Les Canadiens croyaient de leur côté que les Soviétiques, ça allait être une partie facile. À cette époque-là, l'URSS dominait sur le circuit mondial. La réalité était vraiment tout autre. Les Soviétiques avaient remporté 2 des 4 premiers matchs dans cette série-là. Et puis, il y a une autre partie qui s'était terminée sur une nulle. C'est Paul Anderson qui a marqué le but de la victoire pour le Canada à 34 secondes de la fin du dernier match de la série du siècle. Encore aujourd'hui, on en parle de cette série-là abondamment. Le 26 décembre, c'était le décès du président américain Harry S. Truman, le 33e président des États-Unis. Il a été en fonction de 1945 à 1953. Et quand on regarde dans ce qu'on trouve, ce président-là, que ce soit dans des livres historiques ou sur Internet, c'est une de ses citations percutantes qui avait parlé d'un de ses généraux de l'armée américaine à ce moment-là. Il avait dit, et je cite, c'est vraiment ce qu'il a dit, je l'ai limogé parce qu'il ne respectait pas l'autorité du président. Je ne l'ai pas limogé parce qu'il était un foutu fils de pute. Il l'était. Mais ce n'est pas illégal pour les généraux. Si c'était le cas, les 3/4 d'entre eux seraient en prison. Fait qu'on peut dire qu'il n'y allait pas avec le dos de la cuillère quand c'était le temps d'y aller de citations intéressantes. On poursuit côté musical comme promis avec une pièce francophone. Je vous présente Véronique Sanson et la pièce Amoureuse.
Une nuit, je m'endors avec lui. Qu'on nous l'interdit, et je sens la fièvre. lèvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Sa vie. Je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. Son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour. Je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma terre, et je ne suis plus d'ici, je ne suis plus d'ici, je ressens la pluie d'une autre planète, d'une autre planète.
Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Tu prends les nuages blancs ou gris, petits ou gros, tu les déchires en morceaux. Tu mets les orages au fond d'une cage et puis tu les jettes à l'eau. Tu attrapes au piège des flocons de neige, tu en fais des arcs-en-ciel. Tu passes sur la brume des rayons de lune, des oranges et puis du miel. Il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Tu joues les cigales, tu parles aux étoiles, en plein milieu de l'hiver. Tu te prends la tête dans mille planètes et tu marches sur la mer. Tu pars en croisière autour de la terre, le long de la voie lactée. Et tu te retrouves où l'on se retrouve quand on ne sait plus où l'on est. Il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon.
fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux. Quand on vit dans la vie comme des amoureux. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux. Quand on vit dans la vie comme des amoureux. Da 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 da.
Ben voilà, on vient de s'offrir un petit doublé musical francophone en plus de ça. Première chanson qu'on a entendue, Véronique Sanson avec Amoureuse. Et là, on vient de s'offrir Il fait beau, il fait bon de M. Claude François, surnommé affectueusement par les Français Clo-Clo. Il est né le 1er février 1939 en Égypte. Il est mort accidentellement le 11 mars 1978 à Paris. C'était un chanteur très apprécié de nos cousins français. Et il a œuvré dans le monde du show business pendant environ 16 longues années. On va continuer nos éphémérides. Un petit peu plus tôt, je vous ai parlé des Olympiques de Sapporo. Je vous avais dit également qu'il y avait eu les Olympiques d'été à Munich. Ben, ça a brassé pas mal à Munich. Il y a la formation terroriste Septembre Noir qui s'est invitée. Le 5 septembre, vers 5 heures du matin, il y a un commando de terroristes palestiniens qui s'introduit dans le village olympique. Il investit les appartements occupés par la délégation israélienne. Il y a plusieurs athlètes qui ont pu, par contre, s'échapper. Il y a l'entraîneur de lutte Moshe Weinberg qui l'haltérophile Romano qui sont tués. Et il y a aussi plusieurs otages là, qui sont gardés par les terroristes. Vers 7 heures, on dit que le village olympique est bouclé par la police. Il y a 12 000 policiers de Munich, là, puis 25 tireurs d'élite qui arrivent sur le terrain. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur et les responsables du village olympique qui se réunissent pour étudier le plan du village et essayer de trouver une solution là, afin d'évacuer les otages. Et puis, ben, en fait, il y a trois hélicoptères qui décollent vers 22 heures du village olympique en direction de l'aérodrome militaire. Et ils emportent avec eux les Palestiniens, les otages et plusieurs officiels allemands. À ce moment-là, chaque pilote est surveillé par un homme de Septembre Noir, là, la formation terroriste. On a dû également mettre le drapeau olympique en berne après la tragédie. On poursuit, ben là, les côtés éphémérides, c'est terminé. Je vais y aller plutôt avec des naissances de personnalités qu'on connaît, des gens qui sont venus au monde en 1972. Il n'y a pas juste moi qui est venu au monde en 72. Il y en a d'autres qui sont humblement plus importants et plus prestigieux que moi. Entre autres, le 24 février, on a la gardienne de but Manon Réaume, qui est native de Lac-Beauport. C'est la première fille à jouer au tournoi international Pee-Wee de Québec. Également, la première femme à jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Elle a évolué avec les Draveurs de Trois-Rivières. Et ce qui l'a fait connaître, bien évidemment, c'est la première femme à jouer un match hors concours de la Ligue nationale de hockey. Ça se déroule le 23 septembre 1992. À ce moment-là, elle évoluait avec le Lightning de Tampa Bay et son équipe affrontait les Blues de Saint-Louis. Le 6 mai, on parle d'un autre joueur de hockey, un autre gardien de but, nul autre que M. Martin Brodeur, qui lui est natif de Saint-Léonard. Il a été repêché en 1990. Il a joué 21 saisons avec les Devils du New Jersey avant de jouer une dernière saison en 2014-2015 avec les Blues de Saint-Louis. Il est titulaire de plusieurs records. Entre autres, il est premier pour le plus de saisons de 40 victoires. Premier également pour le nombre de minutes jouées en saison régulière avec 58 434 minutes. Il est premier en nombre de victoires pour une saison régulière avec 669 et il a eu l'occasion de gagner trois Coupes Stanley. Du côté du showbiz québécois, le 26 juin est né Garou. Ben oui, il est né à Sherbrooke. Il commence sa carrière en France en interprétant Quasimodo dans la populaire opéra rock Notre-Dame de Paris. En 2000, il lance son premier album qui s'intitule Seul. Et de 2012 à 2014 et également en 2016, il est coach à l'émission française The Voice. On le retrouvera d'ailleurs comme coach dans la prochaine saison de La Voix ici même au Québec. Toujours dans le domaine du show business, le 6 juillet, on a la chanteuse Isabelle Boulay, qui est native, elle, de Sainte-Félicité. En 1996, Isabelle Boulay avait prêté sa voix à la chanteuse Alice Robbie dans la série télévisée du même nom. Elle s'est fait connaître également là, avec cette série-là par le public québécois. En parallèle, il y a Luc Plamondon qui la remarque, puis lui offre le rôle de Marie-Jeanne dans son opéra rock Starmania. Elle tiendra le rôle pendant 350 représentations en France, principalement. Depuis, elle connaît du succès au Québec et en Europe. On a aussi l'occasion de la voir comme coach à La Voix. On poursuit tout de suite côté musical avec Don McLean et on se tape avec plaisir American Pie.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you off your shoes? Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park. And we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye.
would be the day that I'd die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. And I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man.
Who can take a sunrise?
Who can take a sunrise?
Sprinkle it. with dew.
Sprinkle it with dew.
Cover it with chocolate and a miracle or two. The Candy Man.
The Candy Man.
Ooh, the Candy Man can. Candy Man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
But who can take a rainbow?
Who can take a rainbow?
Wrap it in a sigh.
Wrap it in a sigh.
Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candy Man.
The Candy Man.
The Candy Man can. Candy Man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Candy Man.
The Candy Man.
Oh, the Candy Man can.
The Candy Man can.
The Candy Man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Candy Man.
The Candy Man.
The Candy Man can.
The Candy Man can.
The Candy Man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Yes, the Candy Man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Ben, c'est avec plaisir qu'on vient de s'offrir un autre doublé musical. On a eu l'occasion d'entendre Don McLean et American Pie. Et tout juste à l'instant, on vient d'entendre la pièce de Candyman par Sammy Davis Jr., qui lui est né le 8 décembre 1925 à Harlem, dans l'État de New York. Il est décédé le 16 mai 1990. On continue de parler de naissance des personnalités québécoises, entre autres le 24 août. Jean-Luc Brassard, skieur acrobatique, est né à Salaberry de Valleyfield. Il remporte le titre olympique de ski de bosse aux Jeux olympiques d'hiver de 1994. On dit que durant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Nagano en 1998, Brassard est le porte-drapeau du Canada. Après sa quatrième position dans l'épreuve des bosses, il dira que ce rôle aurait dérangé sa préparation. Donc, il a accusé le fait d'avoir porté le drapeau. Jean-Luc Brassard a pris sa retraite de la compétition le 21 octobre 2002. En carrière, il a remporté 20 épreuves de Coupe du monde, en plus d'amasser 27 médailles d'argent et de bronze en Coupe du monde. On a aussi eu l'occasion de le voir à la barre de l'émission « Comment c'est fait » sur Z-Télé. Le 18 octobre 1972, le pilote automobile Alexandre Taglioni est né à Montréal. Il commence sa carrière en sport automobile en 1995 dans le championnat nord-américain de Formule Ford 1600. Il termine à ce moment-là à la quatrième place. À partir de 1996 et ça jusqu'en 1999, il dispute le championnat de Formule Atlantique, mais malgré plusieurs victoires, il ne parvient pas à décrocher le titre et se contente d'une troisième place en 1997 comme meilleur résultat au classement général. Le 12 décembre 1972, on a le chanteur Kevin Parent qui est né à Greenfield Park. C'est en participant au concours Le pouvoir de la chanson que Parent se fait remarquer par une compagnie de disques, ce qui lui permet de signer un premier contrat et ce qui mène à son premier album Pigeon d'argile en 1995. Cet album le propulsa dans les sommets des charts de vente au Québec. On dit que Pigeon d'argile trouvera preneur auprès de 375 000 personnes. Il est aussi l'auteur en 1995 de la chanson-thème de l'émission de télévision « Pignon sur rue ». On va regarder aussi côté cinéma, qu'est-ce qui est sorti en 1972? Ben, il y a Le Parrain, hein, qui est sorti le 15 mars, qui est réalisé par Francis Ford Coppola. Ça mettait en vedette Marlon Brando et Al Pacino. Le 15 septembre, on a le film Cabaret, qui est réalisé par Bob Fosse et met en vedette Liza Minnelli et Michael York. On a aussi le 14 décembre, La Fureur de vaincre, réalisé par Lo Wei et met en vedette nul autre que Bruce Lee. Et le film réalisé par Woody Allen, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, ça met en vedette évidemment Woody Allen, Gene Wilder, John Carradine et Louise Lasserre. Ben voilà, c'est ce qui complète notre première capsule du podcast À voyager dans le temps. J'espère que vous avez apprécié. Personnellement, j'ai adoré vous présenter cette petite capsule historique. On se retrouve bientôt, j'espère, pour une autre capsule. Mais d'ici là, on se quitte côté musical avec une chanson que vous connaissez sûrement, une chanson qui va sûrement vous rappeler des souvenirs. Voici Johnny Nash et I Can See Clearly Now. Ciao, bye, la gang!
Gonna be a bright sunshine day. It's gonna be a bright sunshine day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Be a bright sunshine. Shining. Oh yeah, yeah.